Trapi Blog Radio sur Marmite FM, présenté par Medilitim.
Les blogueurs du Trapi Blog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapi Blog. Ce qui est important, c'est vraiment
des gens en 2002 qui s'intéressaient à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur.
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapi Blog Radio
sur Marmite FM,
présenté par Medilitim.
On fait comme ça. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour une deuxième émission du Trapi Blog Radio avec aujourd'hui un invité mystère, un jeune des Yvelines qui nous a déjà un peu raconté sa maladie, une leucémie, accompagné de sa maman, toujours la même maman. Et donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va, après la première émission qui consistait à un retour d'expérience un peu personnel sur la manière dont vous aviez vécu la maladie, prendre un peu de distance et de hauteur pour voir un petit peu comment en fait vous avez été accompagnés tous les deux par ce qui est mis en place dans ces situations-là, et voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer selon votre expérience de la maladie. Explique-moi, toi, jeune mystère, comment tu as été accompagné lors du coup de tes, on va dire, deux maladies ou tes deux épisodes en fait de la même maladie.
Alors, dans le premier épisode qui s'est déroulé à l'hôpital Mignot,
donc au Chesnay à Versailles.
Au Chesnay, c'est ça. J'étais dans un service où j'étais le seul enfant. J'étais qu'avec des adultes.
Parce que tu avais quel âge à l'époque ?
À l'époque, j'avais 16 ans. Et du coup, bah, forcément, j'avais pas d'autres enfants avec qui m'amuser. Mais malgré ça, j'ai eu un très bel accompagnement des soignants, des infirmières, des médecins ou alors des aides-soignantes.
Alors déjà, d'un point de vue technique, par rapport au traitement de la maladie, d'un point de vue médical, est-ce que toi, tu as eu l'impression d'avoir été bien soigné ? Est-ce qu'ils ont été efficaces selon toi ?
Alors oui, très efficaces, parce que dès les premiers traitements, les résultats étaient très bons. Donc pour moi, déjà, ça a été très efficace, même si la maladie est revenue, ça restait oui, très, très, très efficace.
Donc là, c'est pour mettre un peu en valeur quand même le système hospitalier en France. Hein, on sait que c'est un système qui coûte cher, mais il est très efficace avec des bons professionnels. Et sur l'aspect humain, comment est-ce que toi, tu as vécu cette vie-là ? En fait, tu as vécu à l'hôpital pendant plusieurs semaines, hein, ce que tu expliquais, et puis tu y revenais régulièrement. D'un point de vue humain, comment ça s'est passé avec les équipes ?
Alors avec les équipes, il n'y a absolument rien à dire. La plupart c'était des filles, donc je vais dire, elles étaient toutes là à répondre à mes besoins. Elles étaient là si j'avais besoin de parler, si j'avais besoin de m'amuser, faire des petits jeux, elles étaient là.
Vous faisiez quoi comme petit jeu ? T'as quel souvenir ?
Des Uno, des fois on faisait des Uno, ou même des fois quand je pouvais sortir de ma chambre, je les aidais à servir le repas des autres patients. Donc non, franchement, elles ont toujours été...
T'as un bon souvenir, finalement,
ah, oui.
Presque, de cette époque-là, du point de vue humain, etc.
Ah, humain, il n'y a rien à dire.
Les périodes, en fait, tu peux nous rappeler combien de temps t'étais resté à Mignot ?
Alors, à Mignot, j'ai fait des allers-retours en tout sur un an et demi. Mais au début de ma maladie, je suis resté un mois et demi. Après, je rentrais chez moi et des fois, je revenais pour deux semaines ou cinq jours.
Donc en fait, le personnel accompagnant, tu me disais que c'était des femmes.
Pratiquement. Ouais.
En fait, quasiment, en fait, te connaissaient très très bien au bout d'un moment. Quoi,
c'est
parce
ça,
que pendant
tout à fait.
Un an et demi, en fait, elles te voyaient très régulièrement.
Exactement.
D'accord. Et lors de la deuxième phase, quand tu as eu une rechute, est-ce que tu étais toujours à Mignot, accompagné par les mêmes équipes, ou comment ça s'est passé ?
Alors non, parce que j'ai dû faire une greffe de moelle osseuse. Donc je suis parti à l'hôpital de Saint-Louis à Paris. Et là, on m'a mis dans une unité AJA. Une unité AJA, c'est une unité adolescents, jeunes adultes. Donc là, j'étais avec tous les patients, c'était des adolescents.
Donc en gros, à Mignot, il y avait un système avec un service enfant et adolescent jusqu'à 15 ans, hein, c'est ça. Et puis après, on passait directement dans un service adulte.
Alors, il me semble qu'à Mignot, il y avait juste adultes. Il me semble que, parce qu'il m'avait déjà, au tout début de ma maladie, Mignot m'avait proposé si je voulais aller dans un hôpital sur Paris avec des jeunes.
Et là, c'était quoi? C'était Necker?
C'était
spécialisé dans les enfants malades?
Bah, c'était Saint-Louis et un autre, je ne sais plus, c'était Gustave Roussy.
D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que contrairement à ce qui se passait en fait à Mignot, à Saint-Louis, donc, il y avait un service organisé spécifiquement
pour
accompagner, c'est ça, les adolescents et les jeunes adultes.
C'est ça.
Alors, du coup, c'était qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ce service-là?
Bah alors, ce qu'il y avait de différent, c'est que il y avait d'autres jeunes avec moi. Donc, si je voulais jouer avec les jeunes, je pouvais. Il y avait des activités organisées, du basket ou des jeux de société, des ateliers pâtisserie. Donc, bah, c'est vrai que c'est un autre monde que se retrouver qu'avec des adultes où forcément on peut pas jouer avec eux.
Parce que quand tu étais à Mignot, en fait, donc tu voyais d'autres adultes qui étaient dans les mêmes, qui avaient des leucémies, qui avaient des types de cancers, c'est ça qui était traité un peu comme toi.
C'est ça.
Simplement, toi, tu étais dans ta chambre et tu n'arrivais pas à faire du lien.
Voilà,
en tout cas,
c'est
ça. Pas naturellement.
Exactement.
Alors que là, il y avait toutes ces activités organisées avec d'autres jeunes qui étaient du coup un peu centralisés sur Saint-Louis, sur l'hôpital Saint-Louis. Voilà. Tu as quel souvenir, toi, du coup, de cette période-là?
Alors, cette période-là, mis à part que les traitements étaient très très lourds, eux aussi, l'accompagnement sur ça, rien à dire, les soignants aussi, rien à dire. Ils venaient dans ma chambre, ils me proposaient quand il y avait des activités. Si je me sentais pas bien, je leur disais non et ils insistaient pas. Et si je me sentais bien, voilà, ils me proposaient, j'y allais, mais en tout cas, rien à dire aussi sur eux.
Donc de ton côté, en termes d'organisation, que ce soit d'un point de vue de qualité de médecine et d'accompagnement humain, l'hôpital français...
rien à dire.
Rien à dire, c'était bien. Du côté de la maman, l'accompagnement, ça s'est passé comment?
Alors moi, je vais être moins positive. Je vais dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. On vous annonce la maladie et vous vous débrouillez avec.
C'est-à-dire que vous rentrez chez vous?
Voilà.
Est-ce qu'on vous propose de participer à des échanges, à des réunions? Est-ce qu'on vous donne des numéros d'associations? Comment ça se passe?
Alors oui, il y a des numéros d'associations qui sont affichés un peu partout. Si vous avez besoin de parler avec un médecin, ils sont ouverts, hein, il n'y a pas de souci, ils vont vous diriger vers peut-être un psychologue. Enfin, moi, ça ne s'est pas passé comme ça, j'ai pas eu à ce moment-là besoin de parler. Donc, je n'ai pas appelé les associations, je n'ai rien demandé. J'ai géré comme je pouvais. Est-ce que c'était bien ou pas? Je sais juste qu'un accompagnement aurait été agréablement appréciable, en tout cas au moment où mon fils était plus sur sa partie de guérison, puisque moi, à ce moment-là, tous mes nerfs se relâchaient. Et c'est moi, en fait, qui commençais à sombrer.
Quand on va revenir sur cette période, en fait, un peu paradoxale, on pourrait se dire, bah, tout va mieux. Et en fait, c'est au moment où tout va moins bien, en tout cas pour vous. Quand tout va mieux pour votre fils, tout va moins bien de votre côté. Pendant sa maladie à lui, vous auriez eu besoin de quoi? De qui?
Alors, un moment, j'ai quand même réclamé aux infirmières qui venaient à domicile, parce qu'à un moment, donc, il avait des hospitalisations à domicile. Enfin, quand il était à la maison, il y avait quand même presque tous les jours des infirmières qui venaient pour des piqûres, pour les soins, du cathéter. Faut savoir que nous, on était au final 4 adultes. Chacun prenait cette nouvelle vie à sa manière. Et je pense que j'ai pas forcément été comprise auprès de mon autre enfant, ni de mon compagnon. Donc j'avais besoin de m'exprimer. Je me suis exprimée avec eux, autour d'une table. Je n'ai pas été comprise, je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Et j'ai demandé de l'aide à une infirmière à un moment. J'ai dit, est-ce qu'on peut pas avoir... une psychologue qui essaye de discuter avec nous tous, qu'on déballe ce qu'on a, comment on ressent les choses, parce qu'il y en a qui gardent aussi en eux. Et puis, malheureusement, la fois où je l'ai demandé, c'est un moment où mon fils arrêtait les soins à domicile. Donc,
l'infirmière n'était plus, plus là.
On ne pouvait plus mettre en place ce suivi. Et j'ai trouvé ça très dommage parce que je ne pense pas qu'il n'y a de date précise, de délai pour, en fait, à un moment lâcher prise.
Parce que donc ce que vous racontez, c'est que il y a l'aspect donc médical, le taux de globules blancs, de globules rouges, etc., la quantité de plaquettes dans le sang. On attaque aussi les cellules cancéreuses, etc. Bon, à côté de ça, il y a un aspect humain et il y a un aspect familial. Et ce que vous nous dites là, c'est que il faudrait organiser l'accompagnement familial. De l'ensemble des membres de la famille, et que ça, du coup, que ce soit le fait de l'hôpital, un peu comme les unités AJA, ou que ce soit le fait d'associations qui seraient en lien éventuellement avec l'hôpital, mais qui ne relèveraient pas de l'hôpital, ça, c'est quelque chose d'important, ça a été quelque chose d'essentiel, puisque ce que vous nous expliquiez en plus lors de la première émission, c'est que c'est quand même un moment où il y a eu des ruptures dans votre vie affective liées en fait à la maladie.
Oui.
D'accord. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure aussi, c'est que cet accompagnement-là, et vous nous direz en fait quel type d'accompagnement il faudrait selon vous, est aussi hyper important quand la maladie s'éloigne petit à petit et que votre fils va mieux. Parce que c'est à ce moment-là que vous, que ce soit première vague ou deuxième vague, vous vous rendez compte qu'il y a une faiblesse à ce moment-là et que finalement, il n'y a rien autour.
Oui.
Ça prendrait quelle forme, selon vous, de quoi vous auriez besoin ? Par exemple, aujourd'hui, où votre fils va mieux. Et c'était vrai aussi il y a quelques mois, quand, après le premier traitement.
Donc, comme je vous ai dit, il y a des associations. Donc, on pourrait me reprocher de ne pas les avoir appelées, puisque les associations aident les familles.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'ici, de toute façon, on ne vous reproche rien du tout. Voilà.
Merci. Mais pour moi, il faudrait venir vers les familles. Voilà.
Est-ce que quand c'est à l'hôpital, est-ce que c'est quand vous êtes à la maison? Parce qu'il y a des fois, en fait, vous nous disiez que vous vous sentiez suffisamment forte. Comment est-ce qu'on peut être sûr, si moi, demain, je me dis, tiens, je veux monter une association, ou si demain, vous voulez monter une association, comment on fait pour parler aux familles, pour aller vers elles?
Alors, moi, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, je vais parler en mon nom. Moi, je sais qu'au moment où on m'a annoncé la maladie, j'ai pas eu besoin de parler. J'ai avancé, mais j'ai pas eu de moment précis. Je pense que régulièrement, si on venait s'intéresser comme ça, peut-être tous les un mois et demi, ou deux mois, je sais pas combien de temps vraiment, parce que tout le monde est différent. Mais je sais que, pour moi en tout cas, trop d'infos à ce moment-là... je n'avais besoin de personne et je pense qu'on m'aurait oppressé si on m'aurait dit il faut parler avec la famille, mais comme d'autres personnes auraient peut-être
dit. C'est un peu à ce que disait votre fils tout à l'heure, quand il expliquait qu'à l'hôpital, on venait le voir, on lui proposait une activité. De temps en temps, en fait, il était dispo, il disait OK. Et de temps en temps, en fait, il n'était pas dispo ou il n'avait pas envie et il disait non. Donc, en fait, c'est revenir régulièrement, comme on le fait déjà au sein des unités AJA, en fait, auprès des jeunes. Et en fait, il faudrait ça, quoi. Donc, un petit coup de fil une fois de temps en temps. On organise des réunions, des cafés. Et puis, 9 fois sur 10, vous allez peut-être dire, bah, en fait, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans une autre dynamique. Mais il y a un moment, en fait, où vous auriez besoin de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent ce que vous vivez ou qui ont vécu ce que vous avez vécu.
Alors, je ne sais pas vraiment, parce que je n'ai pas contacté les associations, justement, parce que je ne voulais pas entendre une expérience de quelqu'un d'autre. Je voulais pas qu'on me dise j'ai vécu comme ci, j'ai vécu comme ça. J'avais juste besoin de parler, en tout cas pour ma famille.
Alors du coup, ça prendrait quelle forme quand vous, ça aurait été plutôt, on va dire, un psy ou une psy. C'est quel type d'échange dont vous auriez eu besoin, dont vous avez peut-être besoin, etc.
Alors je sais que tout le monde n'est pas ouvert à la psychologie. Moi, je suis ouverte à ça, j'ai pas de problème. Donc je ne dirais pas un psychologue. Moi, je verrais ça. Alors, dans mon idéal, un accompagnement comme il y a en AJA, ça veut dire qu'il y a un animateur. Et pour moi, auprès des familles, il faudrait qu'il y ait un animateur. Alors, je le mets entre guillemets parce qu'on ne va pas nous proposer des jeux. Mais une personne qu'on ne considère pas forcément comme un psychologue, parce qu'on pourrait se dire on va juger ou pas. Je sais pas, mais quelqu'un, y a des, parce qu'il y a des gens qui sont fermés, hein. Quand il y a une maladie, ils vont même ne pas en parler. Hein. Ça a été le cas un peu chez nous, hein. J'ai une personne qui n'en parlait pas du tout, ou presque pas. Et quand on dit psy, je sais que ça ferme des barrières. Donc je parlerai plus d'un animateur, voilà.
Et qui vous proposerait quoi ?
Une visite pour savoir si tout va bien, si la personne qui s'occupe du foyer principalement déjà arrive à s'en sortir, même si on m'avait proposé, hein, on m'avait proposé quand même de l'aide si j'avais des soucis dans ma maison et tout ça, mais pareil, on me l'a proposé dès le début. Peut-être que ça aussi, ce sont des choses à reproposer un petit peu dans le temps, puisque bah, à l'instant T, vous nous dites ça, c'est bien, mais enfin, on a trop d'informations. Enfin, là, parler de ma maison, ça va pour faire mes courses ou mon ménage. J'apprends que mon fils est malade. Donc, c'est pas le sujet. Donc, voilà, de temps en temps, juste se rassurer que la personne qui accompagne le malade est bien, mentalement, psychologiquement, si elle n'est pas trop fatiguée, si elle est bien entourée. Je pense que même ma fille, alors pour la deuxième fois, pas la première fois, elle était petite, mais peut-être de savoir, de parler avec elle, puisqu'elle était consciente que son frère est malade, de savoir comment elle le prenait, comment moi je prenais les choses, de savoir que ma fille était malade, enfin, parce que ça fait mal aussi, y a des choses qui...
C'est en fait proposer en fait un échange à tous les membres de la famille, c'est-à-dire vous en tant que mère, mais avoir en fait un point de vue plus large sur l'environnement proche en fait de la personne malade.
Exactement.
Qu'est-ce que du coup on a un peu répondu du côté de la maman et finalement vous êtes la porte-parole du reste de la famille, des membres de la famille. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer selon toi dans la prise en charge? Tu nous as dit que du point de vue du malade, du jeune malade, c'était quand même une prise en charge de super bonne qualité.
C'est ça.
Qu'est-ce que toi tu verrais d'améliorable encore?
Alors, pour ma part, oui, effectivement, sur l'accompagnement du malade, je pense pas qu'il faudrait changer grand-chose parce que c'est y a rien à dire sur ça. Après, sur le fait de la famille, je pense qu'il faudrait quand même, oui, un petit accompagnement pour parce que c'est certes le malade qui souffre, mais la famille souffre et parfois des membres de la famille souffrent plus que le malade. Par rapport à cette situation, donc je pense que oui, il faudrait un petit peu plus d'accompagnement au niveau des proches,
d'accord,
de la famille.
Est-ce que toi, tu sens, par exemple, aujourd'hui, que tu pourrais être accompagné, toi? Est-ce qu'il y a une forme de choc que tu as vécu pendant la maladie, lié au traitement, que tu ressens encore un peu? Ou est-ce que toi, tu dirais que d'un point de vue psychologique, le fait que tu ailles de mieux en mieux fait que dans ta tête, tu trouves un équilibre naturellement?
Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que malgré... On m'a proposé plusieurs fois de voir un psy. J'ai jamais trop voulu. La seule fois où je suis allé, c'est parce que j'étais obligé. Par rapport au... Après, au suivi, je suis obligé de voir un psy pour voir. Mais après, pour certaines personnes, je sais qu'eux, ils ont besoin de voir des psys, etc. Mais moi, même dans les moments durs, j'ai pas voulu vraiment voir de psychologue.
Et si c'était un autre profil, parce que ce que disait ta maman, finalement, c'est que le côté psy, en fait, ça peut être un peu rebutant. Mm-hmm. Mais si c'était un autre profil, animateur, animatrice, autre jeune, tu vois, ou autre profil complètement, est-ce que tu te dis que tu aurais pu, toi, utiliser quand même une forme de soutien, pas psychiatrique, psychanalytique, tu vois, pas psy du tout, ou est-ce que tu avais l'impression que c'était pas nécessaire?
Bah, je pense que si, à la place d'un psy, qui, on va dire, où on est là, on peut se lâcher, on peut dire ce qu'on pense vraiment... On se dit quand même que le psy n'a pas vécu ce qu'on a vécu. Donc je pense que si un jeune serait venu parler avec moi et qu'il m'aurait dit comme quoi lui a été passé par une étape pareille, similaire, je pense que là ça aurait pu quand même, oui, ça aurait pu m'aider parce que je me dis que lui, il sait de quoi il parle, il sait ce que je vis. Donc je pense que oui, ça aurait pu être...
Ou un ancien malade, quoi, ou une ancienne malade qui aurait vécu les mêmes traitements et qui aurait pu te dire, bah voilà, les prochains mois, les prochaines années, finalement, voilà ce que moi j'ai vécu, comment est-ce que toi tu te sens aujourd'hui, etc., quoi, autour de l'expérience de la maladie.
Exactement.
D'accord.
Après, si je peux intervenir, quelque part, ils font déjà un peu, je pense, leur thérapie quand ils peuvent se retrouver en AJA. Et je tiens à préciser que les AJA sont... sont vivantes grâce aux associations, qui est important.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, comment ça fonctionne, le rapport AJA-association ?
Par exemple, la plupart des activités qu'on fait, par exemple le basket ou les ateliers pâtisserie, etc., en fait, c'est des associations qui viennent, qui prennent des bénévoles ou alors d'autres personnes, enfin, surtout aussi des jeunes, la plupart du temps, c'est des jeunes. Et qui viennent pour jouer avec les malades, faire des activités avec eux.
Est-ce que ces bénévoles, c'est d'anciens malades parfois ou pas ?
La plupart du temps, non. Après, peut-être qu'ils me l'ont caché, mais non, généralement, c'est des bénévoles.
D'accord. Donc, et du coup, au-delà de l'activité qui te change un peu les idées, les échanges que tu as pu avoir avec ces personnes-là aussi autour de la maladie ont pu te faire du bien ou ça n'a pas fonctionné comme ça ?
Je sais que moi j'ai pas fait beaucoup d'activités parce que j'étais vraiment c'était vraiment dur cette période, mais quand j'en faisais, je sais que oui, j'arrivais à parler des fois avec des jeunes où ils me demandaient ce que j'avais exactement, je leur expliquais et...
Plus qu'avec des bénévoles, c'était plus avec les jeunes qui étaient suivis aussi au sein du service que tu discutais plus.
Voilà, c'est ça, plus avec les jeunes que les bénévoles, mais même les bénévoles au final des fois on arrivait, on communiquait ou on parlait.
D'accord. Ok. Comment est-ce que toi, tu vois, maintenant que tu es en voie de guérison, comment est-ce que toi, tu vois ton futur ?
Alors déjà, avec cette expérience, je me rends compte que je ne m'arrête plus à des futilités.
De quel type ?
Je sais pas, de trop rêver par rapport à la vie. En fait, moi, là, je pars juste dans une optique de vivre ma vie, de ne pas me prendre la tête. Juste profiter. Parce que à tout
donc
moment.
C'est quoi, quand tu dis profiter, c'est aller à Ibiza, c'est...
Non.
C'est quoi ?
Non, déjà arrêter de se plaindre pour certaines choses futiles.
Bon, déjà, si t'as un rhume, tu vas plus crier sur tout le monde. Ok.
C'est ça. Et non, juste le fait de reprendre une vie banale, pas forcément vouloir mener la vie d'un millionnaire ou avoir juste la santé. Et de quoi vivre.
Donc en fait, toi, tu as 20 ans, tu as pris beaucoup d'expérience, de maturité.
Voilà, c'est ça.
Et de temps en temps, c'est vrai qu'on a des jeunes qui ont ton âge, qui se voient joueurs de foot professionnels alors qu'ils sont nuls, qui se voient rappeurs à gagner des millions, des milliards. Toi, voilà, tu es plus en mode...
Je vis ma vie...
Comme si tu avais 20 ans de plus en disant on va faire les choses dans l'ordre.
Voilà.
Voilà. Alors du coup, faire les choses dans l'ordre, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que toi, demain... Est-ce que tu as repris des études ? Est-ce que tu as repris un boulot ? Est-ce que comment tu... C'est quoi ton quotidien ?
Là, je n'ai pas repris de travail, mais je compte reprendre d'ici peu.
Comment tu vas faire ?
J'ai pris un rendez-vous à la mission locale, et donc après voir ce qu'il en suit. Mais oui, juste trouver un travail. Après, une fois que ma maladie passe et que j'ai une situation, pourquoi pas emménager tout seul Enfin, évoluer, on va dire.
Vivre ta vie, quoi, comme un adulte, quoi.
C'est ça, exactement.
Petit à petit. Est-ce que tu as quand même des rêves ? Est-ce que tu as des... Si tu te projettes dans 10 ou 20 ans, est-ce que tu vois quand même un monde un peu rêvé ? Ou tu as l'impression que la maladie t'a vraiment calmé et que tu te dis que les rêves, c'était avant et c'est plus aujourd'hui ?
Des rêves, oui, on va dire c'était avant. Non, là, je sais que moi, j'aimerais juste un petit peu plus d'argent parce que l'inflation, là, ça augmente. Mais juste avoir mon travail.
Un bon petit salaire.
Un bon petit salaire avec...
Logement, voiture.
Voilà, ma famille et voilà.
D'accord. Tout. Du côté de la maman, comment on se projette dans le futur une fois que son fils va mieux et qu'on peut penser que lui, ça y est, sorti d'affaire.
Alors, après une rechute, je dirais que je suis toujours sur la garde. Pour moi, mon fils est toujours malade. Voilà, Je ne pense pas que ce sera de suite que je vais dire mon enfant est sorti d'affaire. Je reste avec cette inquiétude, même si je me suis quand même un peu calmée là-dessus, mais voilà, un petit bouton, un petit peu de fièvre. Enfin, quoi qu'il en soit, pour moi, c'était...
c'est une expérience traumatisante, on n'en sort pas comme ça.
Non, ça va être encore une mauvaise nouvelle. Enfin, quand il a ses prises de sang, dis-moi tes prises de sang, montre-moi tes prises de sang, j'ai besoin de les voir. Ça, c'est très important, j'ai vraiment besoin de les voir. C'est... Même si... ça part chez le médecin, il faut que je vois ça. C'est une, d'ailleurs, c'est une remarque que j'avais relevée quand il a été à Paris. J'avais expliqué mon expérience de la première maladie et j'avais fait part que pour mon bien, j'avais besoin de voir les prises de sang.
Donc, ce qu'il y a, c'est que là, il y a un petit décalage entre vous deux sur la manière de se projeter. Quand on est jeune, qu'on a été malade, en fait, et que les résultats sont plutôt positifs, on se projette plutôt dans l'avenir. Alors que quand on est à maman, en fait, on reste un petit peu dans la maladie et vous verrez plus tard, en fait, comment vous allez vous projeter en dehors de la maladie. Pour finir cette deuxième émission, quel type de message vous voudriez passer aux gens qui nous écoutent et qui se demandent comment, finalement, ils peuvent filer un coup de main ?
Moi, je m'adresse surtout aux jeunes. De les sensibiliser par rapport au don de sang. Il faut faire des dons du sang parce que ça sauve des vies.
Alors toi, du coup, à quoi ça t'a servi les dons de sang ?
Vu que les traitements de chimio, ça détruisait toutes mes défenses, forcément, des fois, j'avais besoin de sang. Et des fois, tous les deux jours, je devais avoir une poche de sang. Et si personne faisait des dons de sang,
c'était pas possible de guérir.
Voilà, c'est ça. Donc, j'appelle aux gens, surtout aux jeunes, même aux adultes, de faire des dons de sang, car c'est très, très important. Et aussi aux jeunes de 18 à 35 ans de faire des dons de moelle osseuse, parce que c'est ça qui m'a permis de vaincre cette maladie. Et,
comment est-ce qu'on fait, si moi, par exemple, qui ai 35 ans plus 10 ans, je voulais donner ma moelle osseuse, à quoi ça ressemblerait ? Donc on est d'accord que moi ça servira à rien, mais imaginons que j'ai 30 ans, à quoi ça ressemblerait ?
C'est alors je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est juste une prise de sang, et après vous êtes mis sur un fichier international, ou dans l'Europe, enfin un fichier de plusieurs pays, et dès que si on a...
Mais non, mais moi, parce que la maman s'amuse là, du
mais
coup.
Je me rappelle même plus de.
Non. Alors en fait, vous êtes inscrit, vous remplissez un dossier, vous êtes inscrit sur la liste des donneurs, et le jour où, alors effectivement, il doit y avoir une prise de sang, mais en tout cas, le don de la moelle osseuse n'est pas douloureux. Vous avez le jour où vous serez contacté, on vous donne un traitement pour booster la moelle osseuse qui va être dans votre sang, et ensuite on vous prélèvera votre sang, une machine séparera la moelle osseuse de votre sang vous sera redistribué.
Et voilà. La moelle osseuse ira en fait à la personne malade.
Voilà.
En sachant ce que vous me disiez en préparant l'émission, que au-delà du cadre familial, il y a une personne sur 1 million,
oui,
qui peut donner en fait sa moelle osseuse de manière efficace à une personne malade. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de monde,
oui,
donnant sa moelle osseuse pour qu'il puisse y avoir en fait des malades en fait qui puissent être guéris.
Voilà, et c'est une personne sur 4 dans une fratrie.
Au sein d'une fratrie. Donc vive les familles nombreuses quand on est malade. Est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui nous écoutent ?
Alors moi, le même que mon fils, donnez votre sang s'il vous plaît. Et pour les jeunes, je pense qu'il faut les sensibiliser à travers les écoles et très jeunes. Voilà.
À ce don.
À ce don.
À ce don.
Oui.
Très bien.
Ce don de moelle osseuse, pardon.
Ouais, de sang. En
fait, de sang et de moelle osseuse, parce que la moelle osseuse, on n'en parle pas beaucoup. Et pour avoir parlé avec beaucoup de jeunes, ils ne sont vraiment pas au courant et confondent la moelle osseuse et la moelle épinière. Et ne sont, non, tout simplement pas au courant. J'ai déjà fait une sensibilisation avec des jeunes.
Et il faut leur dire que ça fait pas mal.
Le don du sang, ils le savent.
Ouais. C'est comme une prise de sang.
C'est comme une prise de sang, d'accord. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux. pour ce retour d'expérience assez sensible. Hein, on parle de maladie mortelle. Et puis, on quand même un message d'espoir, hein, c'est qu'en fait, on en sort avec des cicatrices, mais on en sort. Et merci aux auditrices et aux auditeurs de Marmite FM 88.4 et à très bientôt pour une nouvelle émission du Trapiblog Radio.
Merci à vous.
Merci.
Trapiblog Radio sur Marmite FM présenté par Mehdi Litim.
Les blogueurs du Trapiblog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapiblog. Ce qui est important, c'est vraiment...
Déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapiblog Radio
sur Marmite FM.
Présenté par Mehdi Litim.
On fait comme ça.